à l'époque des compagnons du prophète, on n'a jamais connu quelqu'un qui a laissé sa religion à cause de la faim. Peut-être que certains d'entre les compagnons, ils ont laissé la vie aisée pour sa religion. Abdullah al-Hawzani, il dit qu'il a retrouvé Bilal à Halab, en Syrie, donc au nord de la Syrie. Il dit qu'il l'a trouvé à Halab et qu'il faisait siwak. Il lui a dit, dis-moi concernant les dépenses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, le prophète n'avait aucune ressource. Et il dit, c'était moi qui s'occupais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que quand une personne vient et rentre en islam, donc se convertit à l'islam, et il n'avait uniquement juste quelques lambeaux qui protègent son corps. Alors il dit à Bilal, va voir les commerçants et pour acheter des choses ou pour emprunter par les commerçants pour lui donner à manger et pour lui rapporter les vêtements. Et le prophète, il n'avait pas un ministère des finances, il n'avait pas des trésors, il n'avait pas ni d'or ni d'argent. Il n'avait pas des entrepôts de vêtements ou quoi. Il n'avait que l'emprunt, donc. Il dit donc à Bilal, vas-y et emprunte des vêtements et de quoi manger pour cette personne-là. Une fois, une personne est venue au prophète et lui a dit, j'ai une très grande faim. Il était très fatigué. Donc la première chose que le prophète en a pensé à faire, c'est de lui donner à manger. Il a envoyé donc quelqu'un pour lui rechercher de quoi manger. Donc il a commencé par ses femmes. Et donc il a envoyé à ses femmes donc il dit, vas-y chez la femme. Donc et la personne que le prophète a envoyé, il est allé chez toutes les femmes du prophète et il a dit que j'ai que de l'eau. Et il n'avait même pas une date, parce qu'une date, elle a une très grande importance à cette époque-là. Alors le prophète, il a dit, qui est-ce qui peut prendre? Il a parlé avec ses compagnons, qui est-ce? Il dit, c'est mon invité, mais j'ai pas de quoi lui donner à manger. Ça, c'est le prophète qui est la personne la plus... prophète, c'est le prophète, donc la meilleure personne devant Dieu. Mais il n'avait pas de quoi donner à son invité. Donc toute cette vie d'ici-bas est éphémère, comme on avait dit. Et cette vie, elle occupe la personne pour elle le divise donc de la droiture et de la religion. Le prophète, une fois, on lui a ramené un bel vêtement, un beau vêtement, et il lui a dit. Et donc il a refusé ce vêtement parce qu'il l'a occupé dans sa prière, parce que ce beau vêtement l'occupait dans sa prière. Donc il a dit, retirez-moi ce vêtement et donnez-moi un vêtement très simple. Et donc un des compagnons, il a pris l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris chez lui. Il a demandé à sa femme, une fois qu'il est rentré chez lui, il a demandé à sa femme, qu'est-ce que nous avons à manger? Et donc sa femme, elle a juré, elle lui a dit, on n'a pas de quoi manger, c'est juste le manger des enfants. Ils n'ont même pas de quoi manger sa femme et son mari. Et donc qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il lui a dit, donnez ce manger-là à cet invité et occupez les enfants jusqu'à ce qu'ils dorment sans manger. Et donc il a tout fait pour que l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a dit à sa femme, une fois que tu ramènes le manger, fais semblant de régler la lumière, mais et éteins la lumière. Et puis il lui a dit de fais semblant de manger sans manger. Voilà. Donc elle fait semblant de manger, elle et son mari, pour que l'invité pense que temps de manger, parce qu'ils étaient donc dans l'obscurité, et l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait jusqu'à il a bien mangé. Et une fois qu'il a bien mangé, qu'il s'est bien reposé, et le lendemain matin, il l'a ramené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, quand tu l'as vu, lui a dit, Allah est très satisfait de ce que vous avez fait cette nuit-là. Voilà, parce que Allah a envoyé au prophète et lui a dit que ce qu'a fait ce compagnon pour son invité. Et quand il vient donc une personne qui a besoin, lui dit, va à Bilal et emprunte quelque chose pour cette personne-là. Bilal, une fois, il dit qu'il a rencontré un mouchrik, donc un kafir. Il lui a dit, j'ai de l'argent. Il lui a dit, n'emprunte plus de personne, emprunte uniquement de moi-même. Donc il lui a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens chez moi, tu vas chez aucune autre personne. Et donc Bilal est devenu donc le client de cette mouchrik. Il emprunte uniquement de cette mouchrik-là, de ce que. Et ça, c'est donc une preuve que l'on peut faire des transactions financières avec même les kofars. Et donc il faut faire même, bien sûr, mais il faut faire attention de ne pas être exploité, et si on n'a pas peur d'être dévié et du droit chemin, on peut toujours faire des transactions avec les koufars. Et Bilal dit une fois, il a fait le wudu et puis il est allé pour faire l'avan, parce que c'était lui le mu'adhdhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en allant vers la mosquée, il a trouvé ce kafir devant un groupe de commerçants. Donc il a parlé avec Bilal, il l'a appelé et il était très fâché par rapport à Bilal. Et puis il lui a dit donc des mots, des gros mots. Il a dit, tu sais pas combien il reste pour... Il dit, il reste 4 jours pour que tu me rends donc l'argent que je t'ai emprunté. Et puis il lui a dit, si tu ne le ramènes pas donc. Il a dit, je t'ai pas donné donc cet argent pour tes beaux yeux, ni pour les beaux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je t'ai donné tout cet argent pour que si tu ne peux pas la rendre, tu vas être esclave de nouveau comme tu étais avant. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut faire attention quand on fait des transactions avec les koufars, de ne pas être dans le danger après. Alors Bilal, il a dit qu'il a eu peur de ces menaces-là, de cette personne-là. Et Bilal, c'était pas pour lui, c'était toujours de l'argent pour le donner au prophète, pour qu'il donne aux pauvres. Puis il a dit, je suis parti. Le prophète, il a fait l'adhan et il a fait le salat al-Isha avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il est parti au prophète et lui a raconté ce qui s'est passé avec... Puis il a dit au prophète que je sais très bien que tu n'as pas de quoi me donner pour rendre l'argent de ce kafir. Il lui a dit, il va donc... Donc il lui a dit, donc, permets-moi d'aller me réfugier chez des tribus et de rester là-bas jusqu'à ce que je puisse récolter et collecter cet argent pour la rendre à ce kafir. Donc il voudrait donc sortir de Médine et... Donc ça, c'est à cause de ce prêt qu'il a fait, cet emprunt qu'il a fait. Et Bilal, il a juste emprunté pour le prophète, c'était pour Allah et pour la cause de Allah, c'est pas. Et c'était donc pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a demandé de faire ça, d'emprunter de l'argent. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Et le prophète, il lui a donc permis donc de sortir de Médine. Donc il est rentré chez lui, il a pris son épée et ses souliers, il a pris tout. Et puis donc il voulait donc sortir de Médine et il attendait donc l'aube pour sortir de Médine, pour partir en voyage. Et donc il était toute cette nuit-là, il était très inquiet. Donc il voudrait donc partir et se sauver, même avant l'aube. Et en sortant, il a trouvé quelqu'un qui l'appelait. Bilal, Bilal. Et puis il lui a dit que le prophète, il a besoin de toi, il t'a appelé. Donc il est retourné chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, une fois qu'il est rentré chez le prophète, il a trouvé 4 chameaux devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec des fardeaux au-dessus de ces chameaux-là. Et donc, il est rentré chez le prophète et il lui a dit que Allah t'a envoyé de quoi payer cet emprunt-là. Il lui a dit donc, quand la peine est venue et quand on est dans la difficulté, Allah ramène la facilité après. Et puis Allah a répondu au vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au dua qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 4 chameaux-là, est-ce qu'ils sont venus du ciel comme ça? Mais le prophète lui a dit donc, sois heureux. Donc Dieu t'a ramené de quoi payer pour ton emprunt. Il lui a dit, prends Bilal, ces 4 chameaux. Tu les prends, les 4 chameaux avec tout ce qu'ils ont. Ça sera pour toi. Il lui a dit, c'est un cadeau de quelqu'un qui vit à plus de 100 kilomètres de la Mecque. Et c'était un roi. Et donc c'était un cadeau donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce roi-là. Et le prophète, il acceptait les cadeaux qui viennent des rois à cette époque-là. Donc il recevait des cadeaux, il faisait des cadeaux aussi au roi. Alors Bilal, il a fait l'adhan pour Salat Subh, et puis il était vraiment très satisfait, il avait le cœur paisible. Et quand la journée il est sorti, donc après quand le soleil s'est levé, il a dit, celui qui a un emprunt, qu'il vient, qu'il m'a prêté quelque chose, il vient. Et puis les gens sont venus et il a payé toutes ses dettes et il n'est rentré que tard après dans la journée. Puis retourné chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, prophète, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit au prophète, il ne nous reste plus rien, on a payé toutes nos dettes. Donc ces chameaux-là ont permis de payer toutes ces dettes-là. Alors le prophète lui a dit, est-ce qu'il reste quelque chose de ce que je t'ai donné? Il lui a dit, il reste 2 dinars. Il a dit, un Bilal, il sort et débarrasse-toi de ces 2 dinars. Il a dit, je rentre pas chez moi sauf après que tu les dépenses. Donc après, puis il est revenu à l'Isha. Il est revenu à l'Isha, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait avec ces 2 dinars? Il lui a dit, je n'ai pas trouvé à qui les donner. Alors le prophète, il est resté dans la mosquée. Et le lendemain, et Bilal, donc le lendemain matin, il a trouvé 2 personnes à la mosquée qui n'avaient pas de rien, donc il lui a donné ses 2 dinars. Après, il est revenu au prophète, il lui a dit, qu'est-ce que tu en as fait avec ces 2 dinars? Il lui a dit, je me suis débarrassé de ces 2 dinars. Et le prophète, donc, il est rentré après chez lui, et parce qu'il était cette fois-ci content parce qu'il ne voulait pas donc rentrer chez lui et avoir 2 dinars avec lui, parce qu'il voudrait donc être quand s'il est mort, il lui reste plus quoi que ce soit. Et le prophète lui dit une fois, si j'avais comme Uhud tout en or, je voudrais pas que cet or-là reste chez moi plus que 3 jours. Il a dit, si la montagne de Uhud, tout est en or, je la dépense pour la cause de Dieu. Pourquoi tout ça? Parce que le prophète ne veut pas être détourné de l'adoration de Dieu et de la prière et de Allah. Combien les gens ont été déviés par la vie d'ici-bas et occupés donc les pensées et de beaucoup de gens. Et souvent les choses qu'on se bat pour les choses qu'on se bat pour eux dans cette vie d'ici-bas, elles nous occupent de l'adoration de Dieu et même elle nous pousse vers les péchés. Le prophète est passé donc des mois sans que le feu ne s'allume chez lui. Tout ceci parce qu'il n'avait pas de quoi allumer, de quoi manger. Donc. Et le prophète n'a pas mangé. Parce que le prophète il mangeait donc de l'orge, du pain d'orge, et il n'a pas mangé de pain de blé, il n'a pas mangé à sa faim du pain de blé. C'est pour ça que Allah lui dit que l'autre vie elle est beaucoup meilleure pour toi que cette vie d'ici-bas. Et un des savants musulmans lui a dit, pourquoi les gens aiment cette vie-là? Il n'aime pas l'au-delà. Parce que, alors il lui a répondu, parce que vous avez rempli cette vie d'ici-bas et vous avez délaissé votre vie de l'au-delà. Par contre, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli donc sa vie de l'au-delà au détriment de cette vie-là. Parce que, bien sûr, par instinct, l'homme n'aime pas de passer d'aller d'un endroit où il est détériorer vers un endroit, ils n'aiment pas passer d'un endroit, d'un bel endroit vers un endroit qui est détérioré. Et quelqu'un, une fois, il est rentré à Médine et puis une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une expédition avec Abu Ubaida. Il avait juste un peu de date. Et dans cette expédition, le chef du groupe donnait à chaque jour une date pour chacun du groupe. Et ils sortent pour exécuter ce que le prophète leur a ordonné de faire. Donc ce hadith montre très bien comment était la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ceci pour montrer combien ils ont préféré l'au-delà à cette vie d'ici-bas. Donc si la vie d'ici-bas occupe nos cœurs, c'est la perte de chacun de nous. Donc, Omar al-Khattab, quand ils vont, les compagnons dans leur expédition, ils ramènent toutes les richesses, tous les trésors qu'ils trouvent chez les Perses et les Romains, ils les ramènent devant Omar al-Khattab et ils le mettent devant lui. Alors Omar, il commence à pleurer. Il dit, Omar, il dit, si c'était vraiment de belles choses, ce serait le prophète qui aurait reçu tous ces trésors-là. Et ni le prophète, ni Abu Bakr Siddiq n'avaient reçu ces trésors-là. Pourquoi que moi, c'est moi qui les reçois? Donc il pleure à cause de ça. Il dit, donc ces trésors-là, c'est parce que c'est pas une bonne chose. C'est pour ça que Allah me les a envoyés à moi. Donc, il faut toujours se rappeler qu'on a, le musulman a besoin de faire ses 5 prières dans la journée, de faire les. Donc, Dieu dit de ne pas oublier donc la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de prendre juste le nécessaire, juste l'indispensable. On doit être dirigé vers l'au-delà, vers tout ce qui nous ramène des récompenses de Allah. Et donc cette vie d'ici-bas, c'est donc la religion, c'est vraiment le capital que chacun de nous a et il doit s'occuper de son capital et de le fortifier pour l'au-delà. Le jour du jugement, les gens de l'enfer pleurent et ils demandent à Allah de retourner dans cette vie pour faire des bonnes actions. Dans le hadith, ils disent que les gens de l'enfer pleurent le jour du jugement et de façon que des bateaux peuvent naviguer dans leurs pleurs-là. Et ils pleurent du sang. Et donc ça, c'est la grande perte que quelqu'un vend sa religion pour cette vie d'ici-bas. Amen.